Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Premier numéro de l'année de notre série sur la découverte des États américains. Et cette semaine, cap sur la Virginie occidentale. Alors, ce n'est pas l'État le plus connu, ce n'est pas le plus grand, mais il vaut le détour. C'est montagneux, il y a de magnifiques paysages. C'est un État ouvrier, minier, frappé par la crise et qui s'est droitisé au fil des années. Et c'est l'État de l'homme politique le plus puissant du moment aux États-Unis, le cauchemar de Joe Biden. Hello everyone. Je me trouve aujourd'hui à Wardensville, 300 habitants. Il y a sans doute très peu de personnes qui connaissent ce village, et sans doute même personne. C'est dans le comté de Hardy, en Virginie occidentale. Pas mal de maisons délabrées avec, vous savez, des vitres scotchées quand on ne peut pas les réparer. Alors on voit vite qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais ça reste charmant avec de jolies petites maisons colorées et des montagnes tout autour. Alors pourquoi j'ai choisi Wardensville? En fait, faut pas chercher une grande explication, c'est plutôt le hasard. J'étais en reportage à Washington pour le premier anniversaire de l'attaque du Capitole. Alors j'aime pas trop cette expression de premier anniversaire pour des événements comme ça, on va dire pour l'attaque du Capitole un an après. Et je suis sorti un petit peu de Washington, parce que si vous voulez faire des reportages équilibrés, si vous restez dans la capitale fédérale, c'est compliqué, puisque Joe Biden a recueilli 93% des voix lors des dernières élections. Alors, je suis allé en Virginie occidentale, c'est à moins de 2 heures, et comme c'est un État beaucoup plus conservateur, eh bien, on a forcément un autre son de cloche, et là, Joe Biden et les démocrates, on ne les aime pas beaucoup, écoutez.
I'm not happy with them Democrats at
Je ne
all,
suis
and I'm
pas du tout
ready to
content des démocrates.
fight. I'm talking about taking guns
Et
and
je suis
hitting
prêt
the
à me
street,
battre. Je veux dire,
if that's what it's
prendre
called
les
upon.
armes dans la rue. Ce
This
pays,
country
c'est
right
comme un
now, we're
couple
like an
marié
unhappily
malheureux. On ne
married
sera
couple.
plus jamais d'accord.
We're never going to agree on everything.
Alors ça, c'était Ronnie, un ancien commerçant, désormais à la retraite. J'ai également demandé son avis à Donna, une mère de famille. Ma question portait sur son souvenir du 6 janvier 2021, c'est-à-dire le jour de l'attaque du Capitole. Écoutez sa réponse.
Honestly, one of the worst days in history.
Honnêtement, c'est le pire jour de notre histoire.
And that's
Pourquoi?
because
Bien parce que Joe Biden, ce jour-là, est devenu
Joe
officiellement
Biden
président
took
des
over.
États-Unis.
That's why.
Le plus mauvais jour de sa vie, donc, pour Donna, qui voue une haine profonde à Joe Biden et aux démocrates, sauf à son sénateur démocrate. Alors, comment cet homme politique, le plus en vue du moment, réussit-il cette prouesse? On va en parler tout à l'heure, puisque Joe Manchin, c'est son nom, sera notre personnage principal du podcast. Mais avant tout, une présentation de cet État, pas très connu, c'est vrai, West Virginia, la Virginie occidentale. La Virginie occidentale, c'est un État de l'Est. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de situer tous ces États du Nord-Est. Ils sont petits et souvent, je prends une carte pour vérifier. Pour faire simple, c'est à l'ouest de Washington, la capitale. Au sud, il y a la Virginie. Alors pourquoi une Virginie et une Virginie occidentale? En fait, il y a eu une scission lors de la guerre de sécession, une divergence de point de vue, pas n'importe laquelle. Les comtés du nord-ouest de la Virginie ne souhaitaient pas se séparer de l'Union, contrairement au sud, où il y avait beaucoup de plantations de coton et les propriétaires employaient des esclaves. Ils voulaient, eux, donc rejoindre les États confédérés. La Virginie occidentale s'est donc séparée de la Virginie et a été admise dans l'Union en 1863. Son existence a ensuite été entérinée par la Cour suprême. Alors, il y a quelque temps, et c'est une amie en fait qui m'a parlé de cet État dont j'avais à peine entendu parler, c'est vrai, en me disant que ça valait vraiment le coup, que c'était très beau. Alors, sur le moment, je me suis dit oui, bon, d'accord, mais il y a quand même plein d'autres choses à faire et à voir aux États-Unis. Mais elle avait raison, c'est très très beau, c'est vallonné, c'est vert. Ça a un côté alpestre, reposant. La Virginie occidentale est connue sous le nom d'État des montagnes pour une bonne raison. C'est l'un des seuls, ce n'est le seul, je crois, État entièrement situé dans la chaîne des Appalaches. Alors, c'est un petit État rural, sauvage. Il y a beaucoup de forêts. Les gens ont longtemps vécu isolés. L'expression n'est pas belle, mais c'est une idée de l'Amérique profonde. un État qui abrite l'un des parcs nationaux les plus récents d'Amérique, qui s'appelle The New River Gorge, les nouvelles gorges de la rivière, qui est devenu le 63e parc national du pays. La Virginie-Occidentale a également son propre Carnegie Hall, comme vous savez, la célèbre salle de concert et de spectacle à New York. Celui-ci est situé dans la ville de Lewisburg, en partie financé par Andrew Carnegie, qui était un Écossais naturalisé américain, un riche industriel et philanthrope. L'une des ressources principales, c'est le charbon, mais le charbon risque de ne plus avoir la cote ces prochaines années. Donc, la Virginie-Occidentale cherche de nouvelles ressources et le tourisme en est une, avec par exemple une initiative originale dont on a beaucoup parlé aux États-Unis ces derniers mois. En fait, les autorités ont eu l'idée, pas mauvaise d'ailleurs, de profiter de la pandémie pour attirer de nouveaux résidents. Et en fait, effectivement, beaucoup de gens aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, qui se sont dit qu'ils pouvaient travailler à distance. Alors, ça dépend bien évidemment de son activité, tout le monde ne peut pas le faire. Mais les zones rurales, globalement, sont devenues plus attractives. Du coup, l'Office de tourisme a proposé 10 000 dollars à toute personne qui accepte de venir s'installer dans l'État. Alors, au cours de la première année, vous recevez 10 000 dollars juste pour avoir déménagé, puis ensuite 2 000 dollars supplémentaires si vous passez une deuxième année sur place, etc. Alors, il y a quand même des conditions, hein. Il faut être employé à distance ou être en capacité de pouvoir télétravailler à temps plein. Il faut avoir la nationalité américaine ou une green card. Et une dizaine de personnes a déménagé dans une ville qui s'appelle Morgantown, qui était le lieu de cette initiative. Alors la Virginie-Occidentale qui se fait aussi remarquer pour une autre initiative cet été. L'État était à la traîne en ce qui concerne la vaccination. Donc le gouverneur de Virginie-Occidentale, un républicain qui s'appelle Jim Justice, a lancé une loterie. Pour y participer, il fallait se faire vacciner, donc avoir une première dose, et à gagner des lots aussi variés que des bourses étudiantes ou encore des permis de chasse et même des fusils de chasse. Alors, je vous ai dit que c'était un petit état, mais je ne vous ai pas parlé du nombre d'habitants. En 2019, la population s'élevait à 1 800 000 habitants. Parmi les célébrités, la gymnaste vedette olympique Marie-Lou Retton, pour ceux qui se souviennent des Jeux Olympiques de 1984, ça commence à remonter, c'était la star américaine de ces Jeux, c'était à Los Angeles, elle a été médaille d'or au concours général. Plus près de nous, l'actrice Jennifer Garner, qui est originaire également de Virginie-Occidentale. Il y a une célébrité qui n'a pas beaucoup la cote dans cet état, c'est Bette Midler, l'actrice chanteuse qui a récemment tweeté: Joe Manchin veut que nous soyons tous comme son État, la Virginie-Occidentale, pauvre, analphabète et tordue. Elle s'est excusée depuis en disant qu'elle avait vu rouge, mais c'est vrai que c'est une charge violente. Alors, pourquoi donc a-t-elle tweeté ça? Je vous en parle depuis le début. Parlons maintenant de ce fameux Joe Manchin. Je le disais dans l'introduction, c'est sans doute l'homme politique le plus influent du moment aux États-Unis. Parce que c'est lui qui décide, par son bon vouloir, de la politique de Joe Biden. Alors je m'explique. Actuellement, on est dans un scénario législatif, vous savez, extrêmement partagé, surtout au Sénat, puisqu'il y a 50 sénateurs démocrates et 50 sénateurs républicains. Et si vous avez un sénateur qui fait défection, eh bien, votre loi, elle ne passe pas, à moins de récupérer le vote d'un adversaire dans le camp républicain, mais c'est assez rare. Joe Manchin, ça s'écrit M-A-N-C-H-I-N, machin, mais avec un N en plus. C'est un sénateur démocrate et il fait régulièrement défection auprès de son propre camp. Ou alors il négocie de longues semaines, de longs mois pour voter les mesures gouvernementales. Alors pourquoi il agit ainsi? En fait, c'est assez simple. Joe Manchin est donc sénateur de Virginie-Occidentale. Il a été auparavant gouverneur de l'État, d'ailleurs. Il est très populaire. C'est un démocrate. Un démocrate dans un État qui a voté à 68% pour Donald Trump lors des dernières élections. Donc un État qui est fortement conservateur. Ça n'a pas été toujours le cas, mais en ce moment, c'est un État républicain et plus généralement conservateur. Joe Manchin, il considère, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, qu'avant de rendre des comptes au gouvernement, il doit rendre des comptes à ses électeurs. Alors prenons l'exemple du dernier grand programme de Joe Biden que l'on peut traduire par reconstruire l'Amérique en mieux, Joe Biden n'arrive pas à le faire passer. C'est un de ses soucis en ce moment. Il en a d'autres, mais ça, c'en est un gros au niveau de la politique intérieure. C'est un programme d'investissement avec deux grands volets, un volet social et un volet environnemental, pour un montant de 1 milliard 750 millions de dollars. À l'origine, c'était même deux fois plus, mais Joe Biden et les démocrates ont dû revoir leurs ambitions, notamment parce que Joe Manchin a dit qu'il était hors de question qu'il donne sa voix. Pourquoi ? Parce que pour lui, ces dépenses vont entraîner une dette insupportable pour le gouvernement fédéral et ça va entraîner une augmentation de l'inflation qui inquiète cette inflation énormément en ce moment les classes populaires et moyennes. On est à près de 7%, hein, c'est le plus haut taux depuis près de 40 ans. Et donc ça fait des mois que le camp démocrate négocie avec lui. C'est même souvent Joe Biden qui s'en charge directement, qui l'appelle ou qui l'invite le week-end chez lui à Wilmington. C'est dire à quel point le sénateur de Virginie-Occidentale est important et désiré. Et au passage, à quel point il est haï par la gauche du parti qui ne supporte pas la façon dont il marchande. Alors, il semblait récemment arriver à un accord avec l'entourage de Joe Biden. Et puis au dernier moment, fin décembre, Joe Manchin a dit qu'il était incapable de voter cette loi, qui ne pouvait pas donner sa voix, une déclaration qu'il a faite sur la chaîne conservatrice Fox News. C'était une façon aussi de donner un message auprès de ses électeurs. Au niveau local, donc, son opposition à son propre camp en fait, le rend très populaire. Hein. Les mêmes personnes que vous entendiez au début du podcast critiquer Joe Biden et les démocrates, eh bien, ces personnes ne tarissent pas d'éloges sur lui. Elles lui sont reconnaissantes de se battre pour eux et aussi sans doute ça leur plaît que leur sénateur soit un énorme caillou dans la chaussure du président. Mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte parce qu'il y a possiblement un gros conflit d'intérêts. En effet, le programme de Joe Biden, je vous l'ai dit, a un important volet écologique et de lutte contre le réchauffement climatique. Il veut promouvoir les énergies renouvelables au détriment notamment du charbon. Or, Joe Manchin a lui-même fait fortune dans le charbon. Il a fondé son entreprise dans les années 80 et selon des journalistes d'investigation, il est millionnaire. C'est aujourd'hui son fils qui dirige l'entreprise familiale. On voit donc le problème. À la rigueur, c'est normal hein, qu'il représente son État et les intérêts de ses électeurs, mais qu'il soit dans la commission énergie, ça l'est beaucoup moins. C'est l'une des bizarreries du système politique américain. Et on voit donc dans ses décisions, il y a aussi sans doute des questions personnelles. Il aurait même reçu récemment, pour vous dire à quel point il est regardé par tout le pays, il aurait reçu des appels de Bill Clinton, Barack Obama et même Oprah Winfrey pour le faire changer d'avis. On est sur un effet papillon. Hein. On sait que tous les experts en ce moment tirent la sonnette d'alarme. La planète est en danger, qu'il faut agir. Pour inverser la tendance, il faut que des pays comme la Chine ou les États-Unis agissent, changent de politique. Si les États-Unis ne le font pas, ça aura un effet catastrophique au niveau mondial. Et en ce moment, il y a un homme qui bloque ces changements. C'est le sénateur de Virginie-Occidentale, Joe Manchin. Il y a aussi une sénatrice d'Arizona qui s'appelle Kirsten Sinema qui pose des soucis à Joe Biden dans ses votes. Mais c'est globalement Joe Manchin qui est le plus coriace. Voilà pour cette lettre d'Amérique consacrée à la Virginie-Occidentale et à son atypique sénateur démocrate. On se quitte avec un morceau léger et entraînant, un duo composé de Elton John et Dua Lipa. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr, sur l'application RTL, ainsi que sur vos plateformes habituelles.